d'un garçon,
dans les bras d'une fille, et danse une fille, dans les bras d'un garçon, et qu'importe l'opinion de toute la famille, de la fille et du garçon, l'amour a toujours raison. Danse un garçon, dans les bras d'un garçon, et danse une fille, dans les bras d'une fille, et qu'importe l'opinion de toute la famille, de la fille et du garçon, l'amour a toujours raison.
Mesdames et messieurs, le Josem
et son chef d'orchestre, Nico.
Encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des syndicalistes révolutionnaires du secteur du commerce pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme animé, en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois sur nos 8 heures de loisirs quotidiens.
Édito du lundi 5 mai 2024 du Monde Merveilleux du Travail. Le travail, pour ceux qui en ont, mais qui le subissent, c'est la torture. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est la misère. Ce soir, nous chercherons à donner une valeur au travail. Une ou des valeurs. Le travail salarié, dont le mécanisme de répartition nous est imposé par ceux qui commandent les tâches exécutées, et le travail comme produit social, rémunéré ou non, mais utile à la communauté. Quelle est donc la valeur du travail ? Du travail. Bon, d'autres avant nous, ce soir, ont abordé le sujet, hein, Adam Smith, Ricardo, Marx, pour les plus heureux, entre parenthèses, connus. Notre objectif n'est certainement pas d'enrichir le concept, mais tout au moins d'en poser les bases et, dans le cadre d'échanges libres, de pratiquer un retour d'expérience de nos années de syndicalisme.
Je me lève
et j'enfile mon costard. Il est souvent midi moins le quart. Putain, la journée est foutue, on va encore me gueuler dessus. J'entends qu'on parle dans mon dos, on voudrait me mettre au boulot. Mais moi je préfère vous faire bouger les fesses. Y'a pas de raison que cela cesse. Y'a pas de raison que cela cesse.
Travailler plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard,
parent avec dislerta.
Travailler plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard,
invendable mais peinard. Je vais très bien, même si certains de mes voisins que je trouve vraiment mesquins attendent de moi que je me lève tôt.
Oh non,
ce sont vraiment de beaux salauds. Moi je préfère vous faire bouger les fesses. Y'a pas de raison que cela cesse. Y'a pas de raison que cela cesse. Que cela cesse.
Travaillez plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard,
vendable mais peinard.
Travaillez plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard.
I really don't care, I just want to kick the snare. I really don't care, I just want to kick the snare. I just want to kick the snare. I really.
Car quelquefois, un peu de réflexion laisse la place à l'imagination.
Je vais reprendre ma grosse caisse pour finir cette histoire de fesses. Et tant pis pour les voisins, y'a pas de raison que cela cesse. Moi je préfère vous faire bouger les fesses. Y'a pas de raison que cela cesse. Y'a pas de raison. Que cela cesse, que cela cesse.
Travaillez plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard,
parent avec dislerta.
Travaillez plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard,
invendable mais peinard.
Travaillez plus pour penser moi,
alors je serai le vilain.
Le vilain petit canard,
parent avec dislerta. Serai le vilain,
le vilain petit canard,
invendable mais peinard. Y'a pas de raison que cela cesse. Y'a pas de raison que cela cesse. Y'a pas de raison que cela cesse. Que cela cesse. Que cela cesse. Que cela cesse. Que cela cesse.
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Liberté à 89.4 et c'était Raoul Petit avec Travailler Plus.
Oui, Travailler Plus, bon ça...
Pour gagner moins.
Ou autant. Autant qu'avant, qui n'est pas grand-chose. Donc on avait fait une précédente émission sous l'emprise des psychotropes, visiblement, si vous l'avez écouté. Une précédente émission sur qu'est-ce que le bien, le travail, tout ça. Eh bien, c'était pour illustrer qu'on peut faire du mauvais travail, même dans une émission. Voilà. Mais moi, je n'ai pas pu me réécouter, c'était incohérent. Bon, on mettra sur le compte de la drogue, même si on n'en prend pas. Hein?
Mais le travail c'est est dire. Une drogue. Le travail est une drogue.
Mais le travail est...
Surtout quand c'est exécuté... Enfin, c'est sous la contrainte, finalement. La contrainte économique.
Oui, oui. Ah. On y va rarement par choix. Parce que, effectivement, alors, on peut aimer son travail, en revanche. On peut aimer exécuter une tâche, avoir un métier, et se plaire dedans. Mais la plupart des boulots, d'abord, sont souvent quasi inutiles. Certains, il y a quand même du boulot qui est inutile, hein, tout ce boulot de cadre qui... qui te dirigent, qui te tiennent informés des nouvelles méthodes de travail dont t'as pas besoin, parce qu'en fin de compte, le but, c'est quoi? C'est que, c'est pas que tu rentabilises, enfin, que tu sois plus rentable. Que... Bon, il y a des boulots, pour moi, qui ne servent à rien. Et puis, surtout, ouais, c'est surtout contraint, pour gagner de l'argent et pouvoir payer son loyer, sa nourriture, ses vêtements. C'est déjà pas mal.
Mais c'est ça, c'est du psychotrope. Ça, c'est du psychotrope. C'est le pire des psychotropes. Et puis, il n'y a pas de remède, quoi. Puis, à part se syndiquer, puis venir faire des émissions de radio. Ça, c'est...
On vous incite tous à vous réunir autour de cette émission de radio, même si vous n'êtes pas syndiqué, mais voilà, nous soutenir. Et puis, et quand on lance des appels, venez à ces grandes messes qui nous rassemblent. Non, mais, je plaisante.
Alors, on revient à cette question fondamentale, qu'est-ce que bien travailler ? L'entrée en matière est assez riche, déjà, on pourrait faire... d'ailleurs, on va développer.
Alors, il y a à la fois, qu'est-ce qui est bien, le bien travailler, et puis il y avait aussi, le thème devait porter aussi sur la valeur travail. Mmh. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'une seule valeur travail ? Alors, parce que la valeur travail, c'est quand même un concept économique. Enfin, c'est comme ça que ça a été perçu. Mmh. Alors, tout à l'heure, j'ai cité Adam Smith, Ricardo Marx. Ces trois-là, entre autres, mais parce que chacun a sa vision de la valeur travail, a apporté une définition de la valeur travail. Donc, avec le temps, voilà, la valeur du travail change. Et surtout, dans l'ère de l'industrie capitaliste, la production industrielle, le rapport a été vraiment grandement modifié sur la valeur au travail. C'est vraiment pas comme au Moyen-Âge ou...
Non, puis il y a la valeur travail, enfin ça pourrait être aussi, il y a autant de valeur travail peut-être que de travailleurs, qui producteurs qui pensent cette valeur, parce que finalement elle est en fonction normalement de nos appétences, de nos choix, de nos envies aussi, ça devrait être un peu ça. C'est, si on veut privilégier une vie de famille, de couple, de je ne sais quoi, on n'a pas le même rapport au travail. Donc il n'a pas la même valeur. Si on veut devenir, je ne sais pas si on est une personne ambitieuse qui veut accéder à des richesses ou à du pouvoir, ou à du... le travail n'a pas du tout la même valeur non plus. Et le travail, pour celui qui veut accéder au pouvoir, ne serait-ce qu'au pouvoir dans une entreprise, un salarié qui veut grimper dans la hiérarchie à la force du mensonge et du croche-pied, non, plus sérieusement, là, oui, qui veut vraiment gravir les échelons, hein, on a souvent entendu souvent, peut-être moins maintenant, encore que gravir les échelons. J'ai quelques exemples dans la boîte actuellement où effectivement le... Alors, c'est pas perceptible tout de suite, mais parfois, au détour d'une conversation, c'est dit, quoi. C'est dit, alors ça... c'est surprenant, hein. Oui, non, moi j'ai de l'ambition, je veux devenir... au moins. Et là, ok, mais je comprends pas, mais je comprends en même temps...
L'ambition... moi, dans ma boîte, l'ambition, c'est plus gagner plus de fric.
Ah, mais les deux. Les deux, mon capitaine. Ouais,
non, parce que, alors évidemment, la valeur travail, alors il y a des valeurs au travail, à mon avis. Et puis, effectivement, la perception qu'on peut en avoir va différer en fonction de la position sociale que le travail va t'apporter. Tu vois, si t'es éboueur, c'est moins classe que d'être un cadre dirigeant. Voilà, mais le cadre dirigeant. Alors que l'éboueur, lui, il a un travail utile. Hein, ça nous évite d'attraper la peste et le choléra, entre autres. Alors que le cadre, il sert à rien. C'est un parasite, en revanche. Pas de cadre dirigeant qui... Enfin, ce que je connais... je sais qu'ils connaissent rien. Bon, bref. Et donc, ils ont une position sociale plus enviable, du commun des mortels, que des boueurs. Alors qu'en fait, le boulot des boueurs est quand même beaucoup plus utile, beaucoup plus essentiel que quelqu'un qui dirige une équipe. Alors, quoi que ça peut être bien de diriger une équipe, mais en général, les équipes, ça dépend dans quel secteur on se trouve. Alors, évidemment, si c'est dans la science et la recherche, oui, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui dirige une équipe. Mais dans le boulot, mettre des boîtes de conserve dans un rayon, franchement, on n'a pas besoin de responsable. Voilà. Et bon, leur position sociale et leur salaire vont être bien meilleurs.
Alors, les cadres en question, enfin, moi, je côtoie. En fait, je ne sais pas, c'est difficile, il est difficile de discerner le... D'abord, je n'arrive pas à savoir ce qu'ils pensent, c'est à supposer qu'ils pensent quelque chose. Ils sont davantage dans l'obéissance à des process et qu'ils mettent en œuvre. En fait, c'est que dans le... Vraiment l'encadrement, parce que à la base le cadre c'est celui qui va rendre opérationnel un groupe de salariés. Pas quelqu'un qui fait descendre les ordres de la direction générale, c'est quelqu'un aussi qui va doit mettre en œuvre un dynamisme, mettre en œuvre faire monter les compétences, etc.
Ah ça c'est l'idéal ça.
Ouais, mais ça je l'ai pas vu ça.
Ouais.
Et je l'ai pas vu, je sais pas où c'est ça. C'est assez curieux.
Mais c'est le problème de la théorie et de la pratique.
Ouais.
Enfin, le problème, si problème il y a. Mais ou en tout cas, la dichotomie entre la théorie et la pratique.
Et j'arrive pas à trouver quelle est la valeur qu'ils accordent au travail, parce que je sais pas ce qu'ils entendent par travail. Tu comprends ça? Il y a des tâches, il y a des objectifs. Alors, on parle beaucoup d'objectifs de travail, on ne parle pas beaucoup de travail. Il y a des objectifs atteints, il y a des... Alors, puis ils utilisent du vocabulaire, aujourd'hui, on ne comprend rien. En plus, c'est fait exprès. Enfin, c'est bon, je ne dis pas ça. Je comprends ce qu'ils disent. Mais ça m'embête d'adhérer à ce genre de discours débile et infantilisant. En plus, qui se parle d'un certain... intellectualisme. C'est pas des intellectuels, c'est un intellectualisme, une espèce de technicité, en fait, c'est plutôt de la technocratie, quoi. Et c'est... en fait, c'est de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait pas avancer ni le boulot, ça aide pas ceux qu'ils ont sous leurs ordres. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Et donc, la valeur qu'ils accordent au travail, ben, je serais bien en peine de savoir à quoi ça ressemble, quoi.
Ben, c'est vrai que
Insondable.
Alors, leur travail, ils le conçoivent comme une rentabilité, en fait, plus.
Oui, et puis comme...
La valeur que ça va apporter.
C'est une valeur égoïste, attention.
Cette plus-value dont parle Marx, qui n'est pas effectivement liée au travail de la production... en soi, enfin, du producteur qui bosse, mais est-ce que l'effort collectif va apporter à l'employeur, à l'entreprise, à l'employeur
Effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la valeur du travail dans certaines professions où. Alors, tu as t'es passé du travail au métier. Enfin, tu vois, et en fait, métier, c'est autre chose. Un métier, c'est on touche dans le dur, peut-être dans ce qui est nécessaire à ce que les producteurs ont créé, en tout cas les êtres humains ont créé en société, à savoir des tâches, donc du travail. Le travail, c'est un ensemble de tâches organisées, plus ou moins, et qui est nécessaire au bien-être ou au moins à satisfaire les besoins premiers de la société. Du groupe. Donc, au départ, c'est métiers élémentaires, forgeron, agriculteur, enfin, jardinier, tailleur de pierre, enfin, des jeux. Puis après,
des métiers qui ont des cohérences les uns avec les autres.
C'est ça, hein, oui.
Tailleur de pierre, pour tailler des pierres, il faut qu'il y ait des outils qui ont été créés par le forgeron.
Exactement. Et donc, ça fait société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en a besoin. On a des spécialistes en plus qui aiment ça, puis peut-être qu'il y avait je sais pas moi, à un moment donné, on est on est attiré par un métier, parfois c'est un leurre, hein, mais on est attiré par un métier, puis on a des prédispositions, je sais pas, forgeron, moi je me vois mal forgeron, quoi, très clairement. Mais, moi je dis ça, mais bon.
Forger des petits trucs.
Ah, les petits trucs, alors, toc-toc.
Fourchette.
Et encore. Mais bon, tu vois, c'est... enfin, j'ai forgé un soc de charrue, puis hein, ça a un sens. Parce qu'après, il y a l'agriculteur qui va s'en servir pour produire, je sais pas, une céréale, qui va ensuite servir à la panification, qui va ensuite servir à alimenter le groupe. Il y a tout ça. Pour moi, ça a du sens. Et c'est des... pour moi, c'est ça. Et la valeur travail, c'est la valeur que l'action de chacun en relation avec celle des autres apporte au groupe. Mais au groupe aussi, aux individus. Je ne parle pas du groupe comme entité, entité anonyme qui a une valeur en soi. Non, mais c'est, on fait groupe, donc on a un groupe, mais à chacun, toi, tu as battu 50 grammes de pain, toi, tu vas manger 200.
C'est la collectivité, quoi.
Ouais, c'est la collectivité. Et c'est les individus qui sont à l'intérieur de la collectivité qui reçoivent aussi les fruits du travail mis en commun. Tout le monde ne peut pas être forgeron. Tout le monde ne peut pas. Et puis, tout le monde n'a pas envie non plus. Oui. Et puis à un moment donné, le groupe a besoin aussi de se distraire du travail, parce que pour l'apprécier, il faut pas être au travail H24. Il y a un moment donné, ça va pas, quoi. Donc il y a le repos, mais si on veut manger, faut d'autres soit au travail. C'est aussi l'organisation, mais l'organisation, on n'a pas besoin des cadres. C'est un truc qui est nouveau, ça. On n'a pas besoin des cadres ou des contremaîtres.
Mais les cadres et les contremaîtres, c'est
des parasites,
des gardes-chourmes. Ouais. Alors, les gardes-chômes, c'est plutôt dans les prisons, dans les pénitenciers. Mais enfin, c'est des contremaîtres qui sont là pour surveiller.
Parce que là, on passe à la notion de profit. Et le profit, il est pour celui qui est au-dessus du contremaître, qui est le maître.
Ouais.
Donc, là, ça ne va plus. C'est là que ça ne va plus. Donc, on n'a plus du tout la même valeur travail. Et en fait, c'est à partir du contremaître que ça part en vrille. Maître contremaître, c'est pas bon. Donc une société organisée, oui, il y a des valeurs du travail. Et puis c'est pas non plus un truc pas bien de d'aimer, comme tu disais, que tu fais. Enfin, la personne qui je sais pas moi qui est peintre en bâtiment, s'il aime son métier, il aime bien les couleurs bien nettes, je sais pas moi la ligne bien tirée, bien droite. Bon, il a aussi du plaisir à produire et à montrer qu'il a produit quelque chose de bien et de beau. Il en tire une satisfaction. Il n'y a pas d'honte à être fier de son travail, à condition que ce travail, il contente ceux pour lesquels il a été fait et celui qui l'a exécuté. Donc, mais ça, oui, ça, c'est des valeurs. Mais c'est vrai pour l'électronique, c'est vrai pour... Après, la technique, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est simplement une évolution des besoins et puis des découvertes. Hein. Tu parlais des scientifiques tout à l'heure. Découvertes, on invente des choses et ça ne cesse de bouger, quoi. Mais ce qui va pas, c'est pas l'extension.
Alors, le problème est justement... plus ou moins évoqué, c'est que effectivement, il va y avoir du profit, mais qui va être le profit d'un seul. Alors qu'en fait, ça devrait être le profit. Si le profit était redistribué à la collectivité, et ben effectivement, ça permettrait avec les améliorations technologiques, de pouvoir moins travailler encore. Oui. Tous ensemble, moins travailler.
Bien sûr, mais c'est même le. Moi, j'attends de la machine qu'elle travaille à ma place. C'est ça qui j'ai pas peur de la machine. Mais c'est celui qui va tirer profit de la machine qui m'emmerde.
Donc le problème, c'est bien la propriété privée.
Exactement. De l'outil de production qui normalement devrait appartenir temporairement à celui qui en a l'usage et collectivement à ceux qui en bénéficient.
Et la propriété privée, je te dis, pour ceux qui nous écoutent très et qui seraient de très mauvaise foi, c'est pas avoir sa petite auto ou même pas sa petite maison. Hein. C'est une entreprise, ouais. Hein, où il y a Donc, plusieurs personnes qui collectivement produisent et qui, à qui on ne reverse qu'à peu près quoi, 10% de ce qu'ils produisent.
Oui.
Je crois que c'est ça à peu près la moyenne.
Bon, c'est ça, c'est le rapport. La valeur, c'est pas le bénéfice. Là, on est dans une autre valeur. C'est pas la spéculation financière ou boursière ou je ne sais quoi, qui est l'extension encore plus de cette valeur qui est une valeur trahie en fait. Une valeur de base qui est trahie. Je veux dire, et c'est lié aussi à un peu cette machine folle d'une société de consommation où on accumule des tas de trucs. Je me souviens d'une chanson de Souchon à ce propos. On en a plein les armoires, je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai plus le texte en tête. Une très belle chanson du reste. Et effectivement, c'est l'accumulation des objets manufacturés. Donc, enfin, je veux dire, 45 paires de pompes, 15 falzards. Enfin, ça n'a pas de sens. On n'est plus dans la satisfaction du boisant, on est dans la frénésie. Dans la frénésie qui alimente le capitalisme dont on parlait tout à l'heure.
Alors, c'est. Eh bien, justement, je ne sais pas si c'est juste, mais si on n'a plus vraiment de repères de valeur travail, justement, les seuls repères qu'on va avoir, ce n'est plus le travail, la satisfaction de faire un travail bien fait. De toute façon, ce n'est même pas ce qu'on nous demande.
Non.
On demande de travailler vite, d'exécuter des tâches effectivement rapidement qui nous abîment physiquement, parce que justement, on a quoi. Donc, travailler vite, ça, c'est associé aux gestes répétitifs, puis de faire toujours les mêmes gestes de manière répétée et donc qui abîme. Mais donc on ne demande pas de faire un travail d'exceller dans notre travail. Mais de rapporter de l'argent, donc d'exécuter des tâches rapidement pour qu'il y ait plus de profit. Et puis, donc les salariés, je pense qu'ils n'ont plus de. Ça n'a plus de sens, le travail. Ils n'ont pas là de. Donc en fait, le rapport qu'ils vont avoir avec le travail, bah, c'est la rémunération. Et justement, la rémunération, ça va leur permettre de pouvoir consommer. Et donc faire des achats peut-être compulsifs en fonction des modes. Il ne faut pas oublier que tous les achats, tous nos actes sont quand même conditionnés par par l'industrie capitaliste, on va dire, par
par la culture de l'envie.
Puis des transmissions familiales, tout ça. Ça transmet, c'est pas aujourd'hui. Tiens, j'ai de l'argent. Puis non, c'est on t'a appris. Donc quand on bref et effectivement, le seul rapport à leur travail qu'ils vont avoir, c'est d'accumuler des objets, des fringues, des t-shirts. Donc, j'en connais, moi.
Oui, c'est dingue, ça. Et donc, on est passé de la valeur travail à la valeur de l'accumulation de ce que le travail permet à travers un salaire.
Ouais.
C'est plus la valeur du travail, parce qu'on s'en fout de faire ce qu'on fait. L'essentiel, c'est d'avoir le salaire qui te permet d'acheter, de consommer et d'accumuler. Et que tu te réalises plus dans le travail, parce que en plus, tu peux pas, parce que la plupart des, ce que t'as dit en préambule, la plupart des tâches, des boulots qu'on nous fait faire, ils sont nuls. Il n'y a pas d'intérêt. Et puis, comme on va vite, parce qu'on nous oblige à aller vite, et c'est devenu une espèce de marotte, faut aller plus vite que vite, c'est à peine, il faudrait que ça soit fini, on va recommencer. Il y a une espèce de le transfert de la valeur, un transfert de la valeur et de la valeur qui est devenue en plus éphémère parce que la mode aujourd'hui par exemple, c'est alors on joue aussi sur la faiblesse du pouvoir d'achat, forcément on est payé à coups de pied au cul donc on peut acheter que de la merde pas cher. Non mais on va avoir des marques comme des vêtements là qui arrivent de je sais pas où là, il y a ça porte un nom là
La fast fashion.
Ouais, fast fashion, voilà. Et t'achètes un t-shirt à 1,50€. Je dis ça, mais je connais pas les prix, puis je m'en fous. Mais des paires de pompes, et puis si elles vont pas, tu les jettes ou tu les renvoies. Enfin, ça n'a plus d'importance. On est dans. Je pense qu'on est dans l'absence de valeur, enfin l'élision de la valeur au travail. Là, on est carrément, quoi. Et même, je vois que ça va même dans les espèces de concours professionnels où on demande d'aller vite aussi. On va réaliser, mais ce qui n'est pas important, ce n'est pas le boulot que tu fais, mais c'est comment tu vas le montrer, comment tu vas le vendre. Ah, ok, il faut vivre de son travail, mais on arrive à un point où, où c'est une dinguerie. Toutes les émissions, par exemple, sur Machin Chef...
Il est top chef,
ouais, oui, top chef et compagnie,
boulanger...
Voilà, ouais, mais c'est du enfin, je veux dire, on est là à se montrer... Enfin, la valeur, c'est pas la valeur du travail, c'est la valeur de l'image. Et la valeur de... Enfin, je veux dire... alors, on va dire, oui, mais si, c'est important, parce que ça vend le métier. C'est des conneries, tout ça. On aura toujours besoin d'aller chez le boulanger pour acheter du pain, enfin, j'espère. Et puis un boulanger, bah, s'il fait sa baguette en 12 secondes 7, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? L'essentiel, c'est d'avoir du pain quand t'as faim, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut redescendre à un niveau qui est celui du rythme. Alors, tu parlais de la rapidité, mais dans les sociétés traditionnelles, la lenteur, c'est une vertu. Même si elles disparaissent, hein, elles sont bouffées par...
par le mode de vie occidental.
Exactement. La lenteur, c'est pas une tare. C'est, enfin, la lenteur, en tout cas, aller normalement, là, marcher, parcourir dans un couloir de métro comme un con. Alors, tu te dis, bah, pourquoi je cours comme ça? Bah, mais bah, si tu ne cours pas comme ça, derrière, ils vont te monter dessus. Hein. Puis devant, ils t'auront largué. Enfin, il y a un truc de dingue, quoi. Et tu te dis, bah, en fait, si on marche normalement, ah bah oui, mais je vais être en retard. Ok, mais on t'a mis en situation d'être en retard. On t'a mis en situation d'être à 300 dans un wagon de métro où il y a 250 places. Je veux dire, tout ça est créé par... et plus tu es soumis à ces pressions, plus tu oublies, on te fait oublier la valeur du... Alors le travail, c'est-à-dire que le mec qui conduit le métro, il a plus de valeur, enfin, ça a plus de valeur pour lui. Toi, ton job, tu penses qu'en fait, qu'aux contraintes et au pognon que tu vas faire et au week-end que tu vas pouvoir passer si tu en as les moyens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le boulot, c'est pas ton travail qui t'intéresse. Ça existe des personnes encore intéressées par leur travail. Mais je pense que... Je pense, peut-être me trompe, mais je pense que c'est pas la majorité aujourd'hui.
Ouais. Ben... Justement, tu parlais de lenteur dans certains pays, où, enfin, effectivement, où ils sont. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Mais justement, tu viens de le dire, hein, si plus on t'accule à être rapide, à être pressé, ben moins tu réfléchis. En fait, tu sais, c'est une sorte d'instinct qui te. Alors, c'est peut-être pas le terme, hein, mais t'es régi par une sorte d'instinct qui te pousse à être le premier dans le wagon, et puis bah, tu réfléchis pas. Hein, parce que c'est comme une espèce de la lutte pour la survie.
C'est une aliénation. C'est d'aliénation. Hein, c'est
ouais. Et bah donc, effectivement, tu réfléchis pas. Du coup, tu finis par plus réfléchir à ce que tu fais, à ce que tu fais bien ou pas bien. Et d'ailleurs, bah, puisque tu prenais des exemples, je sais pas, les exemples de ma boîte, hein, où on est la direction change couramment de mode de fonctionnement, de méthode, apporte toujours des améliorations. Alors des améliorations qui sont censées aller dans son sens, pas dans le sens des salariés. C'est-à-dire qu'on va te mettre en place un système d'aide par l'électronique, tu vois, oui, les produits que tu vas scanner, mais il y a des réassorts automatiques qui sont faits par des logiciels en fonction des données que tu vas rentrer dans tes petits appareils, tes petits jouets, parce que c'est du jouet aussi. Hein. En fait, c'est comme si on te mettait des jouets dans les mains.
Et tu t'amuses avec. L'aspect ludique,
c'est travail. Ouais, c'est un aspect ludique. Mais c'est quand même aussi, en fait, c'est pour que tu ailles beaucoup plus vite. Et puis pour que beaucoup de choses soient faites automatiquement, électroniquement. Donc, effectivement, mes collègues, donc en changeant les méthodes les nouvelles méthodes de. Comment on appelle ça?
D'appro.
d'approvisionnement, voilà. Eh ben, on va en profiter pour rajouter de la charge de travail aux salariés. Mmh. On dit, bah, puisqu'en fin de compte, tu vas avoir une aide technologique, eh ben, ça te laisse plus de temps. Et en fait, ce qu'attendent les cadres, puisque tout à l'heure tu demandais quel est leur rapport au travail, quelle est la valeur ils apportent, alors je sais pas trop non plus, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que un salarié qui doit commencer son contrat à telle heure et finir à telle heure ne doit pas avoir plus de pause que ce qui lui est accordé légalement. C'est-à-dire que s'il a un quart d'heure de pause, il doit prendre un quart d'heure de pause. Tout le reste du temps, il faut qu'il bouge les bras, les jambes. Il faut qu'il soit en activité. Mmh. Alors qu'effectivement, quand tu as le temps de réfléchir à ce que tu fais au travail, eh ben, déjà, tu limites les risques d'accident. Et puis, tu peux, à la limite, réfléchir à des méthodes qui sont plus... tu apprends déjà de ton travail. Ça te permet quand même, tu peux réfléchir, tu y réfléchis. Donc tu apprends de ton travail et puis d'apporter des améliorations.
Mais pour toi.
Et puis préserver ta santé. Mmh. Ce qui est visiblement plus le cas, enfin de moins en moins le cas aujourd'hui. Mmh. Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui pourraient travailler parce qu'ils sont en chôme dû, parce qu'ils sont réduits au RSA et puis qui doivent justifier tout un. Bref. Qui pourraient vouloir travailler et ce qui permettrait aux autres de travailler moins.
Ah bah
mais non, en fin de compte, ceux qui sont en place, on leur donne une charge de travail, mais tout ça, c'est pour une logique de profit. Voilà, j'étais un petit peu long.
Non, mais c'est très bien, c'était pas très long, c'était normal. Non, c'est ça, c'est cette logique de profit qui, de manière insidieuse, va s'investir dans tes propres méthodes de travail, enfin d'action au travail, parce que tu as un environnement qui est contraint. Mmh. Et plus on va t'envoyer d'informations, moi je sais bien, je reçois des informations en pagaille, mais... Et j'ai... si, je vais le dire.
Balance. Bon,
et en fait, quand je les fais pas, ça change rien. C'est ça qui est dingo. Je me suis aperçu qu'en fait, quand j'en faisais que la moitié ou le tiers, parce qu'à un moment donné, je disais... T'as 70 mails par jour, 80 mails, hein, tu peux pas trop... sans parler de ce qui t'arrive en direct. Hein. Puis là, à un moment donné, je me dis, mais non, mais je vais pas faire, en fait. Et ça ne change rien. Ça ne change rien. Et c'est dingue. C'est ça,
Avant la pause musicale, dans la boîte dans laquelle je travaille, en 24 heures, ont été licenciés la directrice, le sous-directeur, le chef alimentaire, les trois piliers de la boîte.
Tu vois, pour la direction générale.
Ceux qui sont censés nous transmettre les informations, qui ils ont été virés et en mise à pied conservatoire tous les en 24 heures tous les trois quoi. La boîte a continué de fonctionner. Ouais. Et il y a eu donc une directrice exécutive qui a essayé de faire le... qu'on voit assez rarement, une fois par semaine. Bon, là, elle a installé ses bureaux dans le bureau de la directrice. Bon, je ne sais pas ce qu'elle faisait, hein, parce qu'elle ne faisait pas les réunions. Bref. Et quand même, quand ils ont commencé à nous présenter le nouveau directeur, au bout d'un mois qui a pris la relève... elle a quand même félicité toute l'équipe parce que non seulement ça a bien fonctionné, mais en plus ça a même été mieux fait qu'avant. C'est quand même dingue. Et par ailleurs, tu dis ouais, mais bon, on va quand même. Je sais pas, ils doivent se rendre compte qu'ils disent qu'ils ont dit une connerie en fin de compte. Enfin, c'est pas une connerie
non,
en soi.
Connerie, hein,
mais ils ont dit une vérité, mais du coup, ça ne sert pas à leurs intérêts. Donc, ils essaient mais attention, hein, bon, ça a été bien, mais on perd quand même beaucoup d'argent, donc on va pas pouvoir embaucher. Vous allez quand même devoir mettre les bouchées doubles. Et voilà, c'est. Ouais. Et ça marche, hein, les salariés sont. Et ils sont flattés. Comme il y a très peu de reconnaissance dans les entreprises. Si tu marches à la reconnaissance, les gens, ils bossent plus. Ah ben, je fais bien mon travail. C'est pas la peine que j'aille. Pour ce que je gagne, c'est pas la peine que j'en fasse plus. Donc, tu vois, à chaque fois, tu es assez mécontent de ce qu'ils font. Tu leur rajoutes du boulot, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, ils s'énervent. Et ils font des crises de nerfs, des trucs. Tout le monde s'engueule. Et mais là, du coup, ça les valorise. Ah ouais, vous avez, malgré la difficulté, pas de cadre, vous avez réussi à maintenir à flot la boutique.
C'est justement parce qu'il n'y avait pas de cadre.
Eh bien, oui. Et ben, ça, c'est une réflexion que je me fais à moi. Mais les autres, non. Et surtout pas la direction.
Écoutez le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4. C'était Crown Lands avec The Shadow.
Oui.
Qu'est-ce qu'a raconté la chanson ?
Eh oui.
Dieu, on s'en fout.
Ah ben, bravo.
Ouais, c'était full sentimental hein, pour ceux que ça intéresse. Alain pour Souchon. La
ouais, mais là, c'était pas du Alain Souchon. Hein,
c'est un autre genre.
Et c'était pas non plus Ozzy Osbourne qui chantait avec le groupe Rush. Non. Donc c'était Crown Lands. Je trouve ça très bien.
Non, mais...
Les auditeurs sont, effectivement connaissent très bien, ils auraient pu dire « Ah, mais dis donc, on dirait la voix d'Ozzy Osbourne. Ouais. » Eh ben, oui, c'est bien sa voix. C'est sa voix, mais
c'est pas lui.
Il
n'est pas mort, Ozzy Osbourne.
Mais non.
Oh, pas encore.
Heureusement. Heureusement. Il a survécu à la dope, à l'alcool, à tout. Au heavy metal.
Momifié.
Ouais, non. Il est immortel.
Oh, ça y est, on est parti. Bah écoute, objectivement, je ne sais pas.
Bon, on reprend notre émission sur... doit-on accorder... peut-on encore accorder une valeur au travail et au travail bien fait? Donc, j'essaye de faire un truc...
Au travail... ouais, selon les termes qu'on a dit au début de l'émission, c'est-à-dire que si ça reste une... à échelle... Alors, c'est pas de l'utilitarisme, mais si ça a une utilité sociale, y compris, je dis, par exemple, on me disait, il n'y a pas que le travail industriel, il y a des industries qui sont pas forcément dans la production de biens matériels ou de services, mais ça peut être aussi, et c'est nécessaire, je pense qu'on a besoin de ça, peut-être le théâtre, le cinéma, les arts, de manière générale, ça c'est un travail aussi. Et c'est aussi important que de forger un soc de charrue ou de planter du blé. Enfin, ça fait partie de l'équipe et on en a besoin. Quoi. Donc, après, c'est la valeur que la société du monde capitaliste accorde aux différents métiers hein, et à ceux qui devraient en vivre dignement, et ce n'est pas le cas, et à la place qu'il leur donne dans la société capitaliste. Je veux dire, mais ça induit aussi la qualité de ce qu'on produit. Si on veut faire du... Comment dire, il y a des séries, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des séries pour abrutis, qui est en masse, mais auxquels on est accro, c'est-à-dire que moi je vois bien les...
Attention à ce que tu vas dire, parce que c'est des trucs que j'aime bien.
Mais tout...
je te colle une.
Même pas peur. Mais non, c'est un truc qu'on est accro et on bouffe ça comme jusqu'à plus... Enfin, je veux dire, voilà, c'est une espèce de... Ça, les trucs là, comment ça s'appelle? Merde.
Oui.
Les soap opéra, les choses comme ça.
Les trucs,
il y a 60 000 épisodes. Il y a des
comme les feux de l'amour.
Ouais, voilà, c'est ça.
Amour, gloire et beauté.
Oui. Peut-être. C'est une dinguerie, quoi, parce que en fait, c'est je vois des personnes qui sont addictes. Droguée à ça, quoi. Il faut absolument qu'elle soit rentrée pour regarder ce truc-là, quoi. Alors maintenant qu'on peut l'avoir en différé, oui. Mais ils en bouffent quand même, c'est-à-dire que. Et c'est un truc de dingo. Est-ce que ça a autant de valeur que. Je veux dire, qu'un film, que ce soit un court ou un long métrage, ça n'a aucune importance, mais qui est travaillé avec des techniciens qui ne font pas du rendement, quoi.
Alors, et des effectivement, artistes aussi. Tu vas avoir des œuvres qui vont être qui vont se rapporter à l'art, tu vois, à une œuvre artistique. Et alors, il peut y avoir des artistes hein, aussi, qui font du soap opéra, des Amour, gloire et beauté. Mais effectivement, c'est du. Enfin, la va-vite avec des scénarios qui n'ont peut-être pas ni queue ni tête. Mais alors, effectivement, on peut se poser la question de savoir. Pourquoi des gens regardent ça? Effectivement, dans quel état de frustration, de manque, qu'est-ce qu'ils ont besoin de combler pour regarder ça? Alors, je suis pas sûr que ce soit une addiction, peut-être, mais enfin, c'est pas une addiction dans le sens où c'est pas de la cocaïne quand même, ou de l'héroïne plutôt.
On n'en est pas dépendant, encore que.
Voilà. Mais ouais, c'est une forme d'addiction d'un épisode à l'autre. Mais pourquoi les gens se réfugient justement dans ce genre de séries débilitantes? Effectivement, c'est. Effectivement, il faudrait savoir quelle est la population qui regarde ça.
Mais je pense qu'il y a, pour le coup, je crois qu'il y a pas de. Alors, il y a plus ou moins des. Une partie importante de certaines classes sociales qui regardent ça, mais je pense que tout le monde est touché par ça. Et c'est terrible parce que
Oui, mais ça, après, là, ça, je pense que ça peut être lié au fait que, bah, effectivement, il n'y a pas de satisfaction dans le travail, il n'y a pas de satisfaction dans la rémunération, donc on a un niveau de vie qui n'est pas très agréable, enfin, pas satisfaisant en tout cas, parce qu'en général, je ne peux pas dire que j'ai vraiment regardé Amour, Gloire et Beauté, et puis je ne sais plus. Bénédicte regarde beaucoup plus, visiblement, elle connaît les titres déjà.
J'étais toute petite.
Voilà. Mais visiblement, les personnages qui sont dedans, d'abord, on ne les voit jamais travailler. Hein ? Là, je pense.
Non, c'est vrai.
On ne les voit pas travailler. Ils n'ont jamais de problème, vraiment de problème d'argent. Peut-être un petit peu un problème d'alcool. Ils sont tout le temps en train de boire des cocktails au bord d'une piscine. Mais ils n'ont pas tant de problèmes que ça. C'est des problèmes essentiellement sentimentaux. Alors, peut-être que si tu es, si t'es pas bien dans ton boulot, tu vois, qu'on ne te laisse pas faire un travail correct. Tu rentres chez toi, tu te prends une rouste, on va dire que t'es une femme, tu te prends une rouste par ton bonhomme, puis t'as rien à bouffer, parce que de toute façon t'as pas de sous, ouais, je peux comprendre que les gens, ils se jettent sur des séries comme ça, ça doit leur, non pas leur vider le cerveau, il y a déjà pas grand chose à mon avis, mais ça doit les sortir de leur quotidien misérable. Bien, en plus, si t'as eu le malheur d'écouter les informations, et puis il y a la guerre là-bas, voilà, on te désingue à Gaza, on fusille en Ukraine, on te coupe la tête au Soudan, ou je sais pas, bref, c'est que des trucs comme ça. Et puis là, il y a eu un tsunami là-bas, c'est un tremblement de terre en Turquie. Et au bout d'un moment, il faut que la soupape, et le... Non ?
Ah oui, oui, oui. Alors après, il y a... non, mais là pour le coup de la soupape, ben ça, d'où l'importance de l'art et de certains divertissements en tout cas. Mais après, je pense que la alors je ne sais pas, mais c'est il y a certes pas de valeur au travail parce que c'est lié à la rémunération absolument ridicule. Il y a pas de valeur au travail qui est fait, moi je pense, hein, qu'il y a pas, c'est mon avis en tout cas, qu'il y a pas de travail, il y a pas de valeur au travail qui est fait pour produire ce genre de série, parce que derrière c'est pas le travail du réal ou de je sais pas qui, parce qu'en général c'est des schémas tout fait, hein, et un peu comme les romans de gare, hein, ça on répète tout le temps la même chose, et en fait on est habitué à voir ce message, et un peu comme ceux qui se gavent de sucre, genre c'est un parce que ça fait du bien, c'est excusez très justement, on vit dans un monde où autour franchement il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Soyons clairs. Donc oui, ça peut être un refuge, mais en même temps, c'est une aliénation. C'est-à-dire que ça ne donne pas de l'art l'idée que c'est aussi un travail. On a l'impression que ceux qui produisent, à mon avis, ces séries, c'est aussi un peu des stakhanovistes, tu sais, parce que ceux qui tournent 48 épisodes, je sais pas s'ils bossent dans des conditions extra, quoi.
Oui, oui.
Quel que soit le figurant, le deuxième, le second rôle, l'électricien, l'éclairagiste, il y en a encore, parce qu'après, maintenant on est sur l'économie de tout. Donc,
travaille à la bougie.
Je suis pas sûr que ça soit du... Il y a une grande satisfaction, quoi, à s'affirmer dans son travail de créateur ou de technicien, où tu apportes ta valeur ajoutée quand même et ton savoir à une œuvre, quel que soit. Après, c'est pas l'importance, parce qu'après on peut apprécier une œuvre différemment. Voilà. Mais là, non, c'est pas. C'est de la série, quoi. Je mets ça au même niveau que la mode, là, tu disais.
Fast fashion.
Fast fashion. C'est pareil, il faut que ça aille vite, il y en ait beaucoup, il faut que ça se renouvelle, et puis il faut que ça aille de plus en plus vite, et que ça soit de plus en plus... que les épisodes, finalement, se succèdent très très vite. Non, moi je pense qu'on est dans l'addiction, dans la dépendance, ouais. Et on cultive cette dépendance, parce qu'on sait très bien que de toute façon, s'il n'y a pas cette dépendance... Alors moi je mets ça aussi, la dépendance par les religions, c'est une dépendance, c'est la culture de la dépendance. Donc on met tout ça mixé, ça fait que ça évite que les salariés ou les travailleurs se prennent conscience que finalement ils sont dans une impasse, qu'ils étaient au début de leur carrière dans une impasse, que la réussite, d'abord, je voudrais savoir ce que c'est un mirage, et qu'ensuite, s'il n'y a pas un changement de paradigme, comme on dit, s'il n'y a jamais rien qui se passera. Il n'y a jamais rien qui se passera. Et qu'on veut justement éviter qu'il se passe quelque chose. Le pouvoir politique et économique veut éviter qu'il se passe quelque chose.
Ah bah, c'est sûr que...
Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux que de nous faire peur avec la guerre? Maintenant, c'est la guerre atomique. Mais putain, bande de cons, de toute façon, si ça part en cacahuète, il n'y aura plus personne pour profiter de quoi que ce soit. Non, mais je veux dire, il y a un... Et de quoi t'as peur de mourir? Non, ben, c'est chiant, d'accord, parce que mourir, c'est arrêter de vivre. Mais donc t'arrêtes de... tu vois,
ça va arriver un jour ou l'autre. Hein.
Mais à part un dingo, tu vois, qui appuie sur le... qui dit, ah ben, faut appuyer sur le bouton, je vais leur vitrifier la gueule, t'as pourri. Mais ça se passera pas comme ça. Il y a trop de pognon à se faire, il y a trop de... voilà, c'est, on est dans... Et on essaie de nous faire peur, collectivement et individuellement. Moi, je sais qu'il y a des discussions au boulot sur... bah, y a une crainte réelle de la Troisième Guerre mondiale.
Ouais.
Je lui dis, mais réveillez-vous les mecs, t'as peur de quoi? Qu'il y a un de ces tarés qui appuie sur le bouton, ça peut arriver. En termes de probabilité, c'est pas exclu.
Déjà, ils courent dans le métro pour pas être en retard au boulot. Alors t'imagines s'il y a une guerre nucléaire, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il va dire le patron?
Mais...
comment tu vas justifier que t'es pas là? Il n'y a plus que ton ombre sur le mur.
Et encore.
Excusez-moi.
C'est l'effet du flash.
Oh, moi aussi, j'aime bien que la soupape. Du...
Donc, ouais, cher. Mais... alors, ouais, mais je pense que c'est... On est dans la... Là, on est dans le... Et ça accélère, en fait, la... C'est vachement complexe, parce que le travail... Il est en fonction de ce que ça rapporte au patron. Et là, avec la pression qui est mise à la fois parce que on a la menace du chômage, de l'inflation, qui monte. Hein, enfin, je veux dire, qui est en permanence, on te bombarde. Les médias sont pas foutus de faire un. Enfin, les médias, comme tu les appelles là, les de merde.
Mainstream.
Voilà, très bien. Et ils sont pas foutus de te donner, parce que c'est leur boulot.
Il y en a qu'une qui suit la technicienne.
Ils sont pas foutus de te donner.
Ils
sont là pour ça. C'est leur boulot. T'as trop de cul que de faire une analyse. Mais non, ils sont là à augmenter ton degré d'angoisse. Donc, d'abord, c'est pas du boulot. Donc, ils font pas leur travail. Ils font un autre travail. Ils font pas ce à quoi on attend qu'ils fassent. Ils font un autre boulot. Donc, leur valeur, elle n'est pas différente de ceux qui courent dans le métro. C'est de faire courir ceux qui courent dans le métro encore plus vite. Au nom du capital et puis des intérêts des chefs d'entreprise qui, de toute façon, continuent à licencier. Ils n'augmentent pas le salaire non plus. Hein. On crée la misère parce que la misère, c'est un levier. Hein. C'est un levier. La peur et la misère. Là, on est dans une phase de peur-misère.
La peur, ça te permet déjà de fermer ta gueule, te dire je me raccroche à ce que je possède, le peu que je possède. Et la misère, c'est pas dans les périodes des plus misérables que les gens se révoltent hein, en général. Non. Donc, parce que là-bas, là aussi, c'est pareil, t'essayes d'avoir quelque chose, d'avoir ce que les autres ont, ou d'échapper à ce que t'as pas, en fait. Je sais pas, peut-être pas très clair, mais t'essayes de grappiller, quoi. Ce qui peut se comprendre. Donc, et effectivement, après, c'est Max Weber hein, qui expliquait que, de toute façon, le chômage, c'était nécessaire pour, justement,
pouvoir... Justement.
Varier les ne serait-ce que baisser les salaires hein, pour pouvoir augmenter le profit. C'est j'ai rien inventé.
Donc on est dans une phase de le travail tel qu'on pourrait le définir, qu'on l'a défini en début de l'émission, avec les besoins réels d'une société individuellement et collectivement responsable, on n'y est pas. On n'y est pas aujourd'hui. C'est à mon sens le travail. Il y a le discours de la valeur du travail. Il y a plein de vieux cons qui serinent avec ça. Le travail, c'est important. C'est là où les hommes se révèlent. Mon cul, quand t'as rien à bouffer, le travail, c'est là où tu crèves. encore plus vite. Parce que, comme tu l'as dit, on est à la tâche. Et puis de toute façon, c'est le retour du boulot à la tâche, hein, de plus en plus. Hein. Regardez nos amis des Anglais qui donnent toujours l'exemple. Maintenant, c'est...
les bons exemples.
Les bons exemples, bien sûr. Enfin, c'est bon. C'est le... zéro à our, je sais pas quoi.
Oui, les contrats.
Les contrats à zéro heure. Formidable. Je dis chapeau.
Fallait l'inventer. Ça.
God save the Queen. Hein, merde.
The King maintenant.
The King, the Queen, c'est pareil. De toute façon, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, t'attends le coup de fil du patron qui va t'embaucher.
Drag Queen.
Toujours le bon point. Pour détendre l'émission. Ouais, c'est ça, on est, et je pense qu'on est là, c'est-à-dire qu'on retourne au boulot à la tâche, on retourne à des boulots de merde, on va même menacer de leur couper toute assistance ceux qui n'ont pas de boulot, parce qu'on les a mis en situation de plus avoir de boulot. Mais les mecs, il est temps d'arrêter. Mais ils courent, ils continuent à courir pour les Jeux Olympiques, pour je sais pas quelle connerie. Là. Mais c'est pas vrai. La valeur travail, c'est pas ça. Là, on est sur du l'augmentation du profit, même si par ailleurs, le profit de la plupart des capitalistes va endetter, c'est fait exprès, hein, endetter la société dans son ensemble. Les Jeux Olympiques, c'est un très bon exemple. On va grever la dette pour le bénéfice de quelques-uns qui vont de toute façon avoir déjà les poches pleines et ils vont les avoir encore plus pleines. Et nous, derrière, on va cavaler pour
les
payer.
Les banquiers, surtout.
Oui, oui.
Mais pas que. Ouais.
Mais pas que, mais ouais. Donc la valeur travail est bien travaillée, bah, eux réussissent à bien travailler dans leur intérêt bien compris. Hein.
Mais c'est du travail qui ne fait pas transpirer sous les bras.
Ah non. Non. Et c'est assez terrible, quoi. Et que je vois ce qu'on disait dans la mission, pas la dernière, mais l'avant-dernière, on a invité Rougier et Plé, les camarades de Rougier et Plé qui étaient en conflit. Ah, c'est la dernière, en conflit. Ouais, là.
C'était la semaine dernière, même. Oh,
putain, voilà. Ça a passé une vitesse, on se souvient. Et donc là, où finalement là, leur travail, même s'ils tiennent à leur connaissance technique, à leur savoir pour les plus anciens ou même les plus jeunes, hein, la camarade là qui était présente avec Sam, elle a des voilà techniquement elle a des connaissances, elle a du savoir-faire, elle peut faire du conseil intelligent, mais ça a pas de valeur. En fait, le travail qu'elle pourrait, son travail qui pourrait être celui de la une plus-value qui va enrichir celui qui vient acheter un objet, c'est ça la véritable valeur du travail. Bon, ils s'en foutent en fait. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses un panier moyen. C'est ça la valeur du travail.
Alors ceux qui s'en foutent, c'est le patron.
Oui. Ah. C'est ça le panier moyen, tu vois. Ça, c'est la valeur du travail.
Ah oui, c'est ce qui leur tombe dans les poches, qui le C'est pour ça que le travail qui est associé aussi à la pénibilité, c'est aussi pour ça que le patron en fait fi, malgré que la loi quand même prévoit qu'on fasse attention à la santé physique et mentale du travailleur, que l'outil doit être adapté au travailleur et non pas que ça soit le travailleur qui s'adapte à l'outil, c'est quand même pas cette vie. Ça, ce sont des recommandations, mais c'est pas ce qui est pratiqué. Et effectivement, on ne tient pas en considération effectivement le bien-être du salarié. Et on exploite le salarié, mais on n'exploite pas de ses connaissances intrinsèques, en fait. Et effectivement, parce que ça va apporter quelque chose à un client, pour reprendre l'exemple de Sam, hein, de Chirurgie et Plaie, ça va apporter quelque chose au client, mais pas au patron. Parce qu'en fin de compte, le patron, que le client il achète tel pinceau, telle peinture ou une autre, il s'en fout du moment qu'il l'a vendu. En fait, c'est un petit peu ça. Ils s'en foutent que le client il soit satisfait d'avoir fait un beau tableau après, ou un beau cadre, ou un beau, une poterie. Qui... Non. Ce qui compte, c'est qu'ils viennent consommer. Et puis, justement, le but, c'est qu'ils se plantent, qu'ils renouvellent, qu'ils réessayent. Donc, ouais. Qui viennent racheter tout le temps les matériaux. Pour peut-être, ça, c'est un petit peu cynique, mais
oui, non, pas du tout. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a même un peu beaucoup de ça. Et ça en dit long sur aussi la notion de satisfaction client par rapport au travail. C'est-à-dire qu'on s'en fout, en fait, comment tu travailles. Même le patron, je peux dire profondément, il s'en fout. Tant qu'il y a du pognon qui rentre, quel que soit le moyen légal pour le faire rentrer.
Ah non, mais moi, ce que j'ai pu constater dans ma boîte, ça va faire 30 ans que j'y bosse maintenant. Puis à un moment, tu ne peux pas changer de boîte tous les ans. Au bout d'un moment, tu te fixes. C'était mon cas. Mais après, c'était profitable parce que j'ai pu observer. Moi, je ne suis pas sociologue, hein, je ne suis pas anthropologue non plus ou quoi que ce soit, mais j'ai pu observer mes collègues et les employeurs.
Observologue.
Je les observe beaucoup, j'ai les bras croisés comme ça, puis je les regarde. Je les regarde passer. C'est bien ce qu'on me reproche au boulot. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais ouais, les employeurs, tous les cadres, en fait, ils savent même pas ce qu'on a vraiment à faire comme boulot. Ils ne savent même pas eux-mêmes si le boulot est bien effectué ou non. Alors, il y en a qui font l'effort. Alors, c'est peut-être une autre génération. Je me rappelle, on a eu un PDG, effectivement, qui, il arrivait à 7h du matin, il était quand même sur place. Il faisait le tour du magasin, il avait son petit carnet, il prenait des notes. Ça va pas. Hop, il allait engueuler ses cadres, des fois un petit peu les salariés, mais plutôt les cadres. Et effectivement, il observait. Il savait comment on devait ranger les choses. Enfin, c'est ce qui m'a pas. J'avais pas les meilleurs rapports avec lui, hein, je vous le dis quand même. Mais bon, mais je peux reconnaître qu'il y avait un effort qui était fait de sa part. Donc, il était là tôt et il surveillait, regardait si son magasin était bien tenu, si les clients allaient être satisfaits et trouver tous les articles dont ils pouvaient avoir besoin. Ben, quand il est mort, bon, déjà, on a vu les cadres se détendre. Oh là là. Et puis là, on ne voyait plus personne avant 9h, 9h30, tu vois, du matin. Parce qu'ils arrivent rarement avant 7h. Enfin, ils arrivaient rarement avant 7h. Après, ils allaient prendre le café. Puis après, il y a un autre collègue qui arrivait à 7h30. Ils allaient reprendre un café, comme ça jusqu'à 9h. Après, à 10h, ils ont des réunions. Tu ne les vois jamais, en fait, dans les rayons. Alors, ils viennent pour te dire, débarrasser le magasin. Les clients vont arriver. Mais ils s'en foutent. Faut pas qu'il y ait de trous. Ils se disent pas, tiens, il y a un trou, il manque un produit, on va faire en sorte de le réapprovisionner. Non, c'est, vous allez étaler, faites en sorte qu'il n'y ait pas de trous. En fait, tu pourrais remplir le rayon qu'avec des coquillettes. Ils s'en foutent du moment que tout est rempli de coquillettes. Tu vois, c'est un truc de dingue. Effectivement, il y a ce. Alors, c'est peut-être pour ça que c'était une ancienne génération. Mais, pour moi, les dirigeants. Donc ça a été quelque chose de très rare peut-être, mais ils ne savent pas comment on travaille, ils ne savent pas ce qu'on a à faire, et ils se contentent de voir que quelque chose est rempli. Ça leur paraît bien, que ça soit mal fait ou pas, qu'il n'y ait pas d'hygiène, que ça soit, les rayons soient dégueulasses, ils s'en foutent du moment que c'est couvert par des boîtes de conserve ou des trucs, tu vois, c'est... Faut pas que ce soit trop voyant. Et en fait, ils n'en ont rien à foutre du travail. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accorder de valeur au travail, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est de toute façon.
Et chez nous, c'est un peu ça, ils ne savent même tellement pas, ils savent même tellement pas comment tu travailles et comment tu devrais travailler, c'est un truc de dingue, qu'ils ont besoin, pour structurer leur politique, d'un outil qualitatif qui va déterminer. Alors il a un peu imposé, hein, Calliope par exemple, ça, c'est un peu imposé, mais en fait c'était tellement foutoir dans l'entreprise de formation que ils ont besoin d'un outil pour savoir si tu travailles bien ou si tu travailles pas bien. Et c'est davantage un outil de pression en attendant que ça devienne un outil de répression. C'est la prochaine étape, ça. Alors je le dis à tout le monde, mais personne n'écoute. Bon, verra bien. Hein.
Tant pis pour eux.
Tant pis pour moi aussi, mais bon.
Tant pis pour vous, dirais-je. Mais effectivement, nous, effectivement, il y a ce dont vont tenir compte les employeurs, enfin les cadres, ça va être la réaction des clients. On est satisfait, donc il y a des enquêtes satisfaction. Mmh. En fait, il y a la possibilité pour les clients de manifester leur contentement, leur mécontentement sur tel service. Et donc, effectivement, ça sert d'enquête de satisfaction. Et c'est là-dessus que vont se baser les dirigeants. Ils vont pas te dire qu'est-ce qui s'est passé, ouais, il manquait du personnel. Non, on va dire vous travaillez bien, vous travaillez pas bien dans tel ou tel secteur, sans se poser la question de savoir ce qui a déconné. Bon, voilà. Le travail, il est abordé. Enfin, il est la valeur qu'il donne au travail, c'est une autre perception que la valeur intrinsèque fait par le métier, ou enfin le travail que tu exerces dans le cadre de ton métier, en tout cas.
Ce que tu disais à propos des lorsque les salariés s'emparent, là, votre expérience d'une semaine, trois semaines sans...
Un mois même.
Un mois sans personne pour vous diriger. D'abord, il y a un apaisement, c'est-à-dire que les relations sont plus... Et puis, le travail ne s'en ressent, parce qu'il s'en ressent qualitativement. Ça, c'est... Alors, pour le patronat, c'est le danger, puisque, en fait, c'est le salarié, enfin, le salarié, le travailleur, le producteur, qui devient autonome. Et donc, qui investit le travail, qui réinvestit le travail. C'est un truc de dingue. Tu te rends compte de c'est une expérience quand même assez... tu réinvestis le travail. Alors, plus ou moins bien, plus ou moins mal, parce qu'il faut du temps pour s'adapter ou de se réadapter. Mais... ça veut dire que c'est en très peu de temps, finalement, tu peux arriver à faire rebasculer dans un autre, vers un autre paradigme les relations au travail et la valeur qu'on accorde au travail. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas donner, toi, producteur, salarié, qui va donner ta valeur qui va devenir la valeur de référence.
Oui.
Comme quoi, il y a un petit peu d'espérance quand même.
Bah oui, non.
Il suffirait de pas grand-chose.
Au départ, on est parti en disant on va tous crever.
C'est pas incompatible.
Et puis là, il va dire bah non, si, peut-être qu'il va y avoir une révolution sans violence, ça va se faire comme ça. Parce qu'il y aura plus de. Hein, les gens vont prendre conscience.
Non, ça peut se faire éventuellement si la masse prend conscience de sa puissance. Collectivement, individuellement, puis collectivement, créer une chaîne de. Tu vois, avec un effet comme ça en chaîne, en quelque sorte. Donc, finalement, comme la bombe atomique, quoi. Les chaînes, les filles en chaîne. On n'est pas loin. Hein. Bon, après, c'est une utopie, peut-être. Un peu dingo. Mais comme il n'y a jamais eu de révolution sans violence, c'est quand même difficile, hein. À imaginer. Mais bon,
je me
dis que l'expérience Monoprix, c'est peut-être à raconter. Surtout, toi, l'observologue.
Ça a été dit, en tout cas. J'espère quand je vais retourner au boulot, ils vont dire qu'il y en a certains qui vont dire c'est l'observologue, l'y est revenu. C'est là, je suis en congé en plus. J'ai trois semaines, attention.
Observologue en congé. c'est un nouveau métier, ça, observologue. Ouais. Quoique non. C'est pas nouveau pour toi, tu observes. Tu es observologue depuis longue date.
Ça fait 30 ans que je vous observe. Oh, ouais. Bon, bref. Voilà, si on fait une conclusion.
Mais oui.
Avant de se passer une troisième petite chanson, ça, tu nous choisis ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre ce qu'il y a sur le papier, Bénédicte. Mais tu mets ce que. On va conclure. Choisis, ça te laisse 5 minutes.
Alors, on conclut, la valeur travail. Ouais. La valeur travail, d'abord, il n'y en a pas une. Nous, le message qu'on peut délivrer, c'est que cette valeur, elle doit être déterminée par ceux qui produisent, et qui produisent en tant qu'individu, puis après, pour la satisfaction collective d'un besoin, quel qu'il soit, hein, que ça soit forger une charrue, un soc de charrue, cultiver un champ de blé ou jouer une pièce de théâtre. C'est vaste. Les nouvelles technologies, hein. Par exemple, j'en sais rien, moi. Même l'ordinateur, je ne suis pas un fan de ça, mais un outil qui doit enlever de la peine, un certain type de peine, sans en ajouter une autre. Mmh. C'est ce que je veux dire. Et toutes ces intelligences, ces hommes et ces femmes qui travaillent sur ces projets, finalement, ils concourent à améliorer notre quotidien. Enfin, c'est comme ça que ça devrait être, quoi. Mais les outils, en fait, ils sont utilisés différemment. Voilà ce que tu disais, tes scans là où faut aller de plus en plus vite et puis on se rajoute des tâches parce que finalement t'as fait ça en 2 minutes alors que quand t'as programmé 5, t'en as 3 de libre. Plutôt que de te donner 3 minutes, on va te mettre un peu de charge de travail en plus.
Bah oui.
Donc c'est clair. Là c'est le retour à Charlie Chaplin, à temps moderne, hein. En plein, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a une véritable réflexion des travailleurs producteurs à mener sur, mais plus largement, c'est-à-dire à se dire, commencer par dire ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire, ce dont on a réellement besoin, à quoi le temps, parce que le temps c'est un truc aussi, on n'a pas parlé de la variable temps, peut-être qu'un jour on fera une émission sur la variable temps. Sur le temps, finalement.
Sur le temps de travail.
Et ça, c'est important, parce qu'en fait, c'est le temps de travail qu'on te loue. Ton temps. Et c'est pas tellement ton temps de travail, mais c'est ton temps qu'on te loue. Alors, ça sera une émission, chers auditeurs.
Ça sera une autre.
Et ça sera une autre émission, ouais.
Voilà. Et puis surtout, réfléchir à son travail et réfléchir à ce qui n'en est pas. L'argent, c'est pas du travail. Mmh. Et puis, c'est s'extraire de cette... Cette idée qu'il faut valoriser pécuniairement le travail. Mmh. Non, le travail, c'est pour le bien collectif, quoi. C'est ce que tu disais, je vais le résumer comme ça. Et ne pas l'associer à de la monétarisation.
Oui, monétarisation.
Voilà. Et voilà. Et pas pour de la propriété privée.
Mmh. Merci, patron.
Merci, patron.
Merci, patron.
Merci, patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux.
Ça fait plaisir à la technicienne. Hein. Hein, s'amuse comme on peut. Hein.
Charlotte.
Si jamais t'es pas aujourd'hui.
C'en est une Charlotte aussi. Oui, mets-nous de la musique, vas-y, coupe-nous le sifflet, ça te fait plaisir.
We'll be right back.
toute façon, tu peux parler sur le... Comme je disais, tu peux parler sur la fin de la musique.
oui, voilà, tu m'as coupé la chic. Steely Dan, avec The Face, dans Le Monde Merveilleux du Travail, sur Radio Libertaire 89.4.
Voilà, on arrive au terme de notre émission, donc on va faire que quelques annonces militantes. On va commencer par vous rappeler que demain, il y a un rendez-vous qui nous est donné par Sud Commerce chez Rougier et Play, dont Eric nous a rappelé la venue de Sam et Laurent la semaine dernière. Donc le rendez-vous, c'est au 15 boulevard des Filles du Calvaire, à midi. Voilà, donc demain, mardi 7 mai, à midi.
Métro Filles du Calvaire.
Métro Filles du Calvaire, c'est pas très loin de République. Hein, donc, c'est en face du cirque d'hiver. Mmh. On peut pas mieux faire. Voilà, pas très loin de la librairie Publico. Donc on peut rappeler d'ailleurs l'adresse 145 rue Amelot, qui sera ouverte demain. Voilà, elle est ouverte du lundi au dimanche, de, je sais plus, de 14h à 19h, quelque chose comme ça. Bon, voilà. 145 rue Amelot. Et vous avez toute la littérature anarchiste et syndicaliste révolutionnaire dont vous pourriez vouloir disposer. Une autre annonce ?
Oui, alors le samedi 11 mai, place du Panthéon, donc à 14h, ne laissons pas Paris aux néo-nazis, donc c'est un village antifasciste, des discussions, des stands, une buvette, des prises de parole, donc forcément discussion, c'est prises de parole, dans le cadre de la montée des extrêmes, et notamment des... après tout, le fascisme, il peut être de droite ou de gauche, hein, je pense que...
C'est plutôt l'extrême droite qui est celui-là.
Ouais, l'extrême droite, on est servi en ce moment. Donc là, c'est ne laissons pas Paris aux néo-nazis, samedi 11 mai, place du Panthéon, 14h.
Voilà, si vous ne faites pas péter la gueule par les néo-nazis, vous ferez péter la gueule par les CRS. Voilà, avis à tous les masochistes. non, voilà, en faites gaffe quand même. Je voudrais vous parler du lycée autogéré de Paris. Vous savez qu'ils ont pas mal de problèmes, puisqu'en fin de compte, ce lycée expérimental qui dépendait du ministère de l'Éducation dépend maintenant du rectorat, et le rectorat veut en faire un lycée comme les autres. Fini l'autogestion, donc, et pour bien montrer que tout ça est bien fini, et il y a quoi, quelques salariés sont mis à pied et vont devoir rendre des comptes. Hein, on va dire ça comme ça. Même s'ils n'ont rien fait, ils vont rendre des comptes. On leur en demande, en tout cas. Alors, si vous voulez en savoir plus, sachez, chers auditeurs, chères auditrices, que dans l'émission Trou Noir qui est d'aujourd'hui, entre 16 et 18 heures, donc le lundi 5 mai, il y a eu une émission consacrée au LAP, lycée autogéré de Paris.
Lundi 6 mai.
Le ?
Lundi 6 mai.
Bah, on est le 6, oui. Oui, mais je suis comme ça. Je suis en congé, je ne sais plus quel jour on est, je ne sais plus où j'habite. Donc oui, dans Trou Noir, le 6 mai, vous pourrez écouter l'émission où était invité sans doute Pascal, qu'on avait reçu à plusieurs reprises, nous aussi, dans Le Monde Merveilleux du Travail. Et donc je vous incite à écouter et réécouter l'émission, et puis vous pouvez retrouver aussi dans les événements spéciaux sur le site de Radio Libertaire le colloque du 27 avril où il était évoqué aussi la situation du lycée autogéré de Paris. Donc vous aurez toutes les informations nécessaires là-dessus, et puis notamment il y a deux rendez-vous le 14. Le mardi 14 et le vendredi 17 mai, c'est les jours de conseils de discipline, donc des camarades. Hein, et il est appelé à un rassemblement à partir de 9h devant le rectorat de Paris, 12 boulevard d'Indochine à Paris, dans le 19e. Pour chacune de ces journées de solidarité, un préavis de grève spécifique est déposé. Voilà, donc il y a vraiment une réelle importance. Il y a vraiment une importance de soutenir le lycée autogéré de Paris. Et voilà.
Et puis il y avait d'ailleurs dans change.org, il y avait une pétition qui circulait pour soutenir un appel à soutien donc au LAP.
Voilà. Donc voilà, si vous allez sur les sur les sites et puis voilà.
Voilà. Donc après cette nouvelle trou de mémoire, on a
noir.
Barbarie au Soudan, un appel à l'aide désespérée des anarchistes du Soudan. Alors pour soutenir les anarchistes du Soudan, contribuer à la solidarité internationale, vous pouvez adresser vos chèques à l'ordre de la CNT AIT, donc 7 rue, alors attention, 7 rue Saint-Rémézy à Toulouse. Et puis vous avez aussi, vous avez un lien sur la plateforme PayPal. Donc,
je pense que les auditeurs, les auditrices qui disposent d'internet vont pouvoir peut-être faire une recherche. Mmh. Donc c'est à l'appel de la CNT AIT.
Et l'appel à solidarité des anarchistes du Soudan.
Ben, dépêchez-vous, parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup.
Ouais.
Et il va peut-être pas, plus en avoir du tout.
Ah ben, on aurait un conservatoire.
Bon, et avant de terminer, on va vous rappeler quand même que le 18 mai à 15h au 33 rue des Vignoles à Paris dans le 20e, il y a une projection du documentaire Nous, ouvrières de la Sogental. Donc ça, c'est à l'occasion de la révolution, du cinquantenaire de la révolution des œillets du Portugal. Donc c'est Portugal 50 ans après. Et voilà, on vous invite tous à venir donc à cette rencontre débat qui est proposée par le CNT EdPix 94, comme souvent. Voilà. Ils sont bien, eux. Donc, une projection du documentaire « Nous, ouvrières de Sogental ». Alors, comme j'ai pas mes lunettes et que c'est écrit en tout petit, c'est toutes les infos que vous aurez. Voilà. 18 mai, 15h, 33 rue des Vignoles. Bon, je te passe l'info, ça te plaît
si tu veux. Et puis pour le plaisir de la lecture, un petit bulletin, le bulletin du mouvement et des collectifs de lutte autonome, La Voix des Sans-Papiers, pour son numéro 20 du vendredi 19 mai, qui date un peu quand même. Mais il doit y en avoir d'autres qui ont paru. Alors c'est l'accroche qui est intéressante. Un peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Ce serait de Saint-Just. Bon, c'est à vérifier. Bah, Saint-Just, en même temps, je ne sais pas s'il porte vraiment bien son nom, celui-là. Ah, bon, c'est un autre débat.
Mais je crois qu'on est de la même région. D'origine. Arrête, hein. Tous les gens que tu n'aimes pas, j'ai des liens avec. Plus ou moins. Hein, un petit jeune homme, il est tout jeune.
Ah, il n'a pas fait long feu. Hein.
Bon, c'était pas le pire.
Ah, je suis d'accord.
Voilà. Bon,
l'émission touche à sa fin.
Il est 20h59. On va pas tarder à lancer le générique de fin et puis on va vous laisser avec Les Muses s'amusent. C'est une émission qui est différée puisque notre camarade Jean-Manuel n'est pas présent dans le studio, mais il a pris la peine de l'enregistrer, de nous la confier pour qu'on la passe. Voilà. Bon, il s'était un petit peu planté dans les génériques. Il avait mis le générique du Proton, mais ça, j'ai rectifié le tir. Ah, sacré Jean-Manuel. Mais il nous teste, tu vois, il nous file des missions comme ça, et puis en fin de compte, si on est attentif, si on écoute. Bonne écoute des Muses s'amusent. Qui sera en deux volets consacrés au musée carnavalel, premier volet ce soir. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours, le 20,
oui.
20 mai, on ne sait pas sur quoi. On vous
surprise,
laisse.
Surprise.
Merci d'avoir écouté. Et puis, au 20 mai.
Ciao. À ciao.
Nous réaliserons l'idéal de
car moi, je veux.
Que vous, partout,
vous alliez le faire gagner,
parce que c'est notre projet.
Vive
la révolution.
Les Muses s'amusent. Vous êtes
sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du musée Carnavalet de Paris. Qu'est-ce que c'est que le musée Carnavalet ? C'est le musée des collections historiques de la ville de Paris. C'est un très beau musée, pas très grand, mais extraordinairement riche, puisque le catalogue de des œuvres qu'il conserve a 625 000 numéros. Bon, mais rassurez-vous, Carnavalet n'en expose que 3800. Ça fait quand même un parcours d'un kilomètre et demi si l'on passe par toutes les salles. Il a été rénové récemment. Certaines œuvres en sont reparties dans les réserves, d'autres sont apparues. Le lieu est un peu mieux éclairé, un peu plus agréable à regarder. Et le musée suggère un itinéraire de visite que nous allons en gros suivre, et qui permet d'être moins perdu dans les deux bâtiments qu'il compose, l'hôtel Carnavalet et l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui étaient deux hôtels particuliers du Marais, donc jamais conçus pour être des musées, et on pouvait donc facilement s'y perdre. Si aujourd'hui on suit plus ou moins le parcours proposé, on a quand même une visite extrêmement complète, et on ne se perd pas. Dans le cycle d'émissions que je vais faire sur ce musée, je vais, en règle générale, donner le numéro de la salle. Attention, ces numéros de salle sont très souvent difficiles à identifier et même les gardiens souvent ignorent quel est le numéro de la salle dans laquelle ils se trouvent. Cela dit, je les donne quand même parce que pour les gens qui veulent